Nous allons lire deux textes qui introduisent la prédication de Roger. L'un dans la lettre de Paul à l'église de Corinthe, 2 Corinthiens 12, depuis le verset 2. Je connais un homme en Christ qui, voici 14 ans, était-ce dans son corps? Je ne sais. Était-ce hors de son corps? Je ne sais, Dieu le sait. Cet homme donc fut ravi jusqu'au troisième ciel. Et je sais que cet homme, était-ce dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait. Cet homme fut enlevé dans le paradis et il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme. Mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes faiblesses. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, de peur que quelqu'un ne m'estime au-dessus de ce qu'il voit ou entend de moi, à cause de l'excellence de ses révélations. Un deuxième texte est tiré de l'Apocalypse de Saint Jean, dans le chapitre 21, une de ses visions de l'apôtre. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Il me dit « C'est fait. » Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau de la vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre. Cela, c'est la seconde mort. Je propose de prier. Merci notre Dieu pour ta présence parmi nous ce matin. Ouvre nos oreilles et nos cœurs pour que nous puissions entendre ce que tu veux nous dire. Accompagne Roger, qui va partager ce que Dieu lui a mis à cœur de nous dire ce matin, et que ton esprit nous parle. Amen.
C'est un peu le moment des bilans et perspectives. En tout cas, pour certains, c'est le passage d'une année à l'autre. Pour le conseil, on a prévu de faire un bilan et de regarder les perspectives courant de cet été. Je sais que pour les employés, à un moment donné, ils sont convoqués par l'employeur pour faire un peu un bilan de leur année. C'est peut-être plus davantage à la fin de l'année. Mais Dans tous les cas, nous sommes appelés à, oui, regarder en arrière, mais aussi regarder de l'avant. C'était un peu ce que nous avons commencé à voir avec notre culte, fin caté, où j'ai voulu rappeler que c'est important de se fixer des objectifs en vue de savoir où on veut aller. Alors, aujourd'hui, le but, c'est qu'on garde en perspective notre espérance, parce qu'avec l'espérance qui est proposée devant nous, nous trouvons courage pour poursuivre la route. Il y a de quoi relever la tête. Il y a, on l'a entendu dans notre texte, peut-être un avertissement, mais il est encore temps de faire demi-tour, de saisir la grâce ouverte. Alors, nous nous arrêtons dans le passage d'Apocalypse 21, où nous avons entendu que les premières choses ont disparu. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Première chose disparue, toutes choses seront nouvelles. La Bible parle qu'on est dans un temps d'ombre des réalités céleste. Il y aura le véritable, mais pour le moment, il y a l'imitation du véritable. Je cite des phrases dans l'Épître aux Hébreux. Il y a l'ombre des biens à venir. Il y a devant nous des possessions meilleures et permanentes qui nous sont proposées. Certains ont eu un aperçu, un avant-goût de ce qui nous attend en Christ. Certains ont vu ces réalités. On peut penser à Étienne. Il était tout à la fin de la vie parce qu'on avait pris des pierres pour le lapider. Et voilà, en regardant en haut, il voit le ciel ouvert et le Christ debout, à la droite de Dieu, prêt à l'accueillir. Étienne a eu un aperçu. Moïse paraît dans la gloire lors de la transfiguration. Pour ne pas le nommer, l'apôtre Paul est monté au troisième ciel où il a entendu des paroles ineffables. Et texte s'ouvre l'Apocalypse de Jean avec ces paroles, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il a été donné à certains de voir ce qui est à venir, les choses permanentes, l'héritage de ceux qui ont cru en Christ. Alors, le premier point, les ombres pour révéler des réalités à venir. Ombres, réalité. Parce que ma proposition de ce matin, qu'il y a des réalités célestes qu'on ne voit pas normalement, actuellement, mais qu'on verra un jour. Mais en attendant qu'ils sont révélés par des symboles, des copies de l'original, si vous voulez, une sorte de générique du vrai. Certains de ces poteaux indicateurs qui indiquent l'avenir se sont déjà avérés justes. Donc, on fait bien de leur prêter attention. On peut penser à la Pâque. La Pâque de l'Ancien Testament, fêtée année après année pendant plus que 1200 ans, jusqu'au jour où le Christ l'accomplit parfaitement et on voit, c'était que ombre la délivrance du pays de l'esclavage de l'Égypte, mais la réalité, c'est la délivrance du péché que le Christ a opéré à la croix. Même chose pour la fête de Pentecôte. À nouveau, l'accomplissement au jour même de l'ombre de la moisson annoncée à la fête de la Pentecôte, et puis l'accomplissement avec le don de l'Esprit et le début de la grande moisson d'âmes qui devait entrer. Il me semble qu'on sera hardi de dire, alors pour les autres fêtes, ils ne vont pas s'accomplir. Prenons la fête de la Jubilée, Lévitique 25, où on devait, lors de la Jubilée, tous les 50 ans, entrer dans l'héritage perdu. Est-ce qu'on dit que mais ça, cette fête-là ne va pas s'accomplir? Ou au contraire, comme dit notre texte d'Apocalypse 21, que le jour viendra où nous nous retournerons dans notre héritage du paradis perdu. Alors, quelles sont les preuves qu'il y a des événements ou des constructions sur cette terre qui reflètent ce qui se passe ou se passera au ciel? Dans notre texte, nous avons déjà un exemple au verset 3. J'entendis un trône, une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes ». Vous vous souvenez du tabernacle dans l'Ancien Testament? Moïse a reçu les plans et c'était le rêve pour tout architecte parce qu'on l'a fait monter sur une montagne, on a ouvert le ciel et on lui a montré l'original dont il devait faire la copie. Vous avez le récit dans Exode 25 et puis en Actes 7, 44 que je peux vous lire. Excusez-moi, je n'ai pas mis un marque-page. Nos pères avaient au désert la tente du témoignage, le tabernacle, comme celui qui parlait à Moïse avait ordonné de la faire, d'après le modèle qu'il avait vu. Il y a dessin, réalisation, copie originale. L'initiative, la réalité est toujours d'abord là-haut, avant que ça soit reflété, ombre sur terre. Sur terre, il y a le passager. Au ciel, le permanent. Nous connaissons l'éphémère, nous connaîtrons l'éternel, le réel. Il y a une terre, selon notre texte, qui passera. Il y a une nouvelle terre qui ne passera point. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avait disparu. Nous avons un corps humilié, nous aurons un corps glorieux. Il essuiera toute larme de nos yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car, verset 4, les premières choses ont définitivement disparu. Ombre, réalité. L'écrivain C.S. Lewis donnait l'exemple d'une femme qui va dans un magasin pour essayer une belle robe. Alors, elle n'est pas sûre sur la lumière artificielle si ça lui va comme elle souhaite, donc elle sort au grand jour pour voir la réalité. C'est ce qui nous attend. Nous sommes un peu dans la période néant lumière électrique, nous passerons au grand jour. C'est comme si on passait la journée à Balaxer ou au bord du lac. Dites-moi, s'il vous plaît, que vous préférez le bord du lac. Donc, notre perspective, actuellement, en appréhendant par la foi le ciel qui nous attend, alors nous aurons plein les yeux. L'ombre céderait place aux réalités. Mais j'aimerais aussi dire ce matin que le passager est là pour annoncer le permanent. Notre passage parle de ce qui doit disparaître. La première terre avait disparu, la mer n'était plus. Ce qui ne sera plus au verset 4. Mais il parle aussi de ce qui est à venir. Je fais toute chose nouvelle, verset 5. Il est parlé de l'héritage du vainqueur. Il y a le passager, le permanent. Il y a un deuxième exemple dans notre texte où j'aimerais m'arrêter. Et cet exemple se trouve au deuxième verset. Une mariée qui s'est préparée pour son époux. Prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Notre réalité actuelle, c'est un peu comme les fiançailles, un temps d'attente et de préparation, un temps qui passera. Il y aura un jour les noces de l'agneau, je cite le chapitre précédent au verset 7, le jour J du permanent. Le jour où enfin le marié retrouve sa bien-aimée, où enfin Christ retrouve son Église. Pour vous qui êtes passés par là, vous vous souvenez sans doute encore de ce que c'était le temps des fiançailles. Le grand jour du mariage était probablement déjà fixé. 12/9/87 dans mon cas. Mais Dominique était au Brésil, la communication à l'époque était difficile, pas facile. Le faire-part était envoyé. Il ne faut pas qu'il y ait des oubliés pour le grand événement. L'invitation doit être claire. Il ne faut pas se tromper d'adresse ce jour-là, ni comment y arriver. Je ne sais pas si je vous avais raconté lors d'un mariage en France que nous avons célébré. Il y a eu le mariage civil juste avant la cérémonie à l'église. Le couple heureux s'est pointé à la mairie de leur village avec leur famille. Et tout s'est bien passé normalement. Et puis, ils sont partis pour venir à l'église pour la cérémonie. Et puis, ils n'avaient pas précisé sur le faire-part l'adresse ni le nom de l'église. Et les parents de la mariée ont été arrêtés en feu rouge et ils ne savaient plus où aller. Je vous raconterai la suite tout à l'heure si vous voulez savoir, mais c'était l'embarras. Il y a des vêtements à préparer. On ne se présente pas n'importe comment ce jour-là. Bref, que tout soit prêt. Et puis dans le temps, les coutumes changent, mais c'est encore le cas dans certaines cultures. L'engagement premier était déjà scellé par un don. Il y avait, avant le mariage, échange de promesses, mais ils n'étaient toujours pas encore mariés. Parce que le fiancé partait ensuite préparer une place où ils allaient vivre une fois mariés. Et à un moment donné, c'était le fiancé qui arrivait pour chercher sa fiancée, et c'était là le festin des noces. Donc ma proposition est que la situation actuelle du chrétien est comme celle de la fiancée qui attend le grand jour de son mariage. Ce temps des fiançailles étant unique pour faire connaissance autrement, avant que le mariage soit consommé. Mais vous êtes d'accord, sans doute, pour dire que ni le fiancé ni la fiancée désirent que ce soit l'état permanent des fiançailles. Le passager annonce et prépare le permanent. Ambre, imitation, passager. Finalement, si toutes choses sont appelées à disparaître, est-ce que ce que nous faisons est si important que ça? Ce serait à explorer, mais j'ai l'impression, quand Jésus ou le Nouveau Testament parle des biens à venir du ciel, il y a aussi en parallèle, est-ce que c'est toujours, comme je dis, serait à vérifier, il y a l'avertissement que ce n'est pas l'unique destination possible pour l'homme. Et nous voyons ça dans notre texte au verset 8. Pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres, les menteurs, leur part sera tout ailleurs. Et ce matin, notre sujet, c'est le ciel. Mais la Bible parle aussi de l'enfer, et il faudrait en parler. Donc, est-ce qu'il y a importance de ce que nous faisons, si nous respectons l'ombre, l'imitation, le passager dans nos comportements, nos choix? Oui, c'est une importance primordiale parce que ça dévoile les réalités et les biens à venir. Ça dévoile le véritable, ces choses merveilleuses, meilleures, et permanentes qui sont indiquées ainsi. Quand je voyageais dans certains pays, quand je demandais les directions pour aller où je voulais me rendre, les gens m'indiquaient une direction simplement pour me faire plaisir, sans avoir aucune idée où se trouvait le lieu. Et c'était complètement fausse. Complètement faux. D'indiquer la mauvaise direction, ce n'est pas une option pour le chrétien. Si on reprend nos deux exemples, le tabernacle, la présence de Dieu au milieu de son peuple, le lieu de sa présence maintenant en nous. Dans ce monde qui passe, nous sommes appelés par sa présence et son esprit montrer la direction de ces réalités à venir. Bien-aimés, voyez de quel amour le Père vous a aimé, car il vous a appelé enfant de Dieu. Et c'est ce que vous êtes. Mais celui qui a en lui cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Notre comportement parle de notre espérance. Ça, c'était le premier exemple, le tabernacle. Et les fiançailles et le mariage. Indifférent aujourd'hui qu'on glisse dans d'autres pratiques, concubinage. Et qu'en est-il du copie qui est censé parler de l'original, du dessin parfait? Nos choix parlent de notre espérance. Il y a danger de fausser ce que Dieu veut annoncer. Et le mariage? Il me semble que le mariage est le lieu où le symbolisme biblique est le plus manifeste. Prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Verset 2. Il me semble qu'on ne doit pas être surpris que c'est là aussi où le symbolisme est le plus sous pression. Et je ne parle pas que du mariage pour tous. Le fond de la question, ce n'est pas une bataille de tel ou tel verset biblique, mais dans ces questions des directions que prend la société ou des directions que je prends dans mes propres choix, est-ce que le symbolisme voulu est renforcé ou faussé? Est-ce que les poteaux indicateurs deviennent plus clairs ou plus flou? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et les deux deviendront une seule chair. C'est un grand mystère, mais, ajoute l'apôtre, je parle du Christ et de l'Église. Nous sommes des modèles, des exemples vivants de l'espérance que nous portons en nous. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Dieu sera là. Il sera avec nous. Nous n'avons pas à perdre de vue la perspective qui est placée devant le chrétien. Ici, c'est que l'ombre, lumière artificielle. Un jour, la terre sera comme elle aurait dû être. Renouvelé, ressuscité, un paradis retrouvé. Le passager cédera au permanent. C'est Dieu lui-même qui descendra vivre avec nous sur terre. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Nous serons ensuite, pour toujours, dans la présence même de notre bien-aimé. Ciel sur terre. Ombre, réalité, passager, permanent. Nous parlons de notre espérance. Nous prions. Seigneur, nous désirons vivre d'une manière qui te reflète, qui t'annonce, qui t'honore. Nous sommes que trop conscients de nos lacunes. Mais Seigneur, garde-nous de rester les bas baissés. Nous désirons nous relever, continuer le chemin. pardonner, purifier, pour t'annoncer toi et ton royaume à venir. Qu'il en soit ainsi, nous prions en ton nom. Amen.
Sur son